Interview.
1 du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec trois personnes, des occupants du théâtre de Die Cinéma maintenant. Lucie, Elodie, Françoise, bonjour.
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 On va parler de la réforme du chômage puisque Françoise, tu as été invitée à venir en parler au cinéma il n'y a pas si longtemps. Et donc, on voudrait bien en avoir un petit bout pour nous à la radio. Mais avant ça, ben, Lucie, si tu veux parler un peu de cette occupation.
L'occupation du théâtre et du cinéma de Die a démarré le 17 mars dernier. Elle s'inscrit dans un mouvement national d'occupation des lieux culturels qui s'étend depuis début mars, il me semble, sur toute la France. J'ai entendu dire que récemment qu'il y aurait plus d'une centaine de lieux occupés actuellement. Et du coup, à Die se sont regroupés des habitantes et des habitants de la vallée pour occuper le théâtre puis le cinéma. Actuellement, on est basé au cinéma. Et avec un certain nombre de revendications, une des principales revendications de départ, c'est donc... La réouverture des lieux culturels et une de nos autres revendications porte sur l'annulation de la réforme de l'assurance chômage. On a écrit un texte, en fait le collectif d'occupation a écrit un texte qui est diffusé par Tract et beaucoup d'autres revendications ont été listées. Voilà. Donc là du coup je dis les deux principales, mais il y a vraiment un foisonnement de revendications qui concernent...
Est-ce que c'est trop long de les dire ?
On peut
y aller. Hein.
On peut en faire la lecture, peut-être à plusieurs voix, si ça vous dit. Nous voulons la réouverture des lieux de culture et de socialisation. Théâtre, bar, restaurant, cinéma, cantine, rue, chapiteau, MJC, gymnase, musée, etc.
Arrêtez cette gestion sécuritaire, autoritaire et liberticide de la pandémie. Reprenons nos libertés d'action, notre sens et notre capacité à être responsables.
Un logement décent pour tous.
Stopper la casse des services publics. À l'inverse, leur redonner des moyens pour qu'ils soient accessibles à tous et les réformer pour qu'ils puissent répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Mettre fin à la précarité, exiger le retrait de la réforme de l'assurance chômage et mettre en place un revenu garanti pour chacun et chacune.
Pour un retrait des lois liberticides, telles que les lois de sécurité globale, séparatisme, qui nous oppriment et nous divisent, et mettre fin à l'état d'exception qui nous prive du débat démocratique.
Contre les frontières et pour l'accueil des migrants dans la dignité.
L'envie de se réapproprier le politique, notamment à travers différents outils d'éducation populaire, assemblées, débats, réflexions pour une meilleure communication, une meilleure organisation collective, une meilleure information.
Être libre de penser, de s'exprimer, partout, de rester en lien, de vivre. Paix, justice, solidarité.
Nous refusons l'intoxication généralisée de notre monde. Artificialisation des terres, pétrochimie, nucléaire, numérisation des existences. Nous soutenons l'application de la Convention citoyenne pour le climat.
Au niveau local, nous exigeons que les habitants et les habitantes soient concertés et leurs besoins entendus. Sur des sujets aussi importants que l'avenir de leur hôpital, étude de sa rénovation, retour des services de maternité et de chirurgie dignes de ce nom. Nous défendons la préservation des terres agricoles de notre territoire pour la biodiversité et notre autonomie alimentaire.
Et pourquoi est-ce que c'est parti sur cette réforme du chômage, vous le savez, assez rapidement ?
Parce que les lieux de culture occupés, c'est des lieux qui appartiennent à tous, pas seulement aux intermittents du spectacle. Et les chômeurs sont tous des intermittents de l'emploi, y compris les intermittents du spectacle. Nous sommes tous des intermittents de l'emploi.
On rentre dans le vif du sujet. Françoise, tu es une ancienne conseillère Pôle emploi.
Oui.
Donc particulièrement bien placée pour nous parler de cette réforme. Qu'est-ce que tu vois de dangereux là-dedans ?
Ce que je vois de dangereux, c'est que on réduit les gens à la misère. On les fait vivre sous le seuil du RSA, puisque la prochaine réforme va faire dégringoler les droits des chômeurs d'environ 40%, 44% d'après les projections. Et quand on sait que l'indemnisation moyenne d'un chômeur est de 980 euros, si on l'ampute de 40%, comment on peut vivre avec moins de 600 euros par mois ? Alors, l'argument de notre gouvernement, c'est budgétaire. Il faut faire des économies. Mais moi, j'ai des chiffres là. L'UNEDIC a collecté en 2018 37,1 milliards d'euros de cotisations. Il en a versé 34,6 milliards. Donc, il n'y a pas de déficit. Simplement, en fusionnant la NPE, qui était une agence d'État, et la CEDIC, qui était payée par les ressources de l'UNEDIC, on a fait peser sur le budget de l'UNEDIC les salaires des agents de l'État, les agents de la NPE. Alors, l'État a, dans un premier temps, compensé. Mais on sait comment ça se passe, on l'a vu avec le RSA dans les départements. Hein. On compense au début à peu près à l'équivalent, et petit à petit, la compensation baisse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait à peu près 30 ou 35 000 agents à NPE contre à peine 15 000 agents à CEDIC. Et c'est la charge de tous ces salaires qu'on fait peser sur les cotisations de la CEDIC. Et c'est ce qui permet de dire, oui, Pôle emploi est en déficit, donc il faut faire des économies. Au lieu de continuer à compenser les salaires qui étaient payés par l'État, l'État se désengage et ensuite dit « Ah ben cet organisme est en déficit et on va faire des économies sur le dos de qui ? Sur le dos des chômeurs, les gens les plus fragiles. Ceux qui ont le plus besoin d'être soutenus, on va leur enfoncer encore un peu plus la tête sous l'eau. »
Tout ça partant d'une logique que les chômeurs sont des branleurs ?
Ben évidemment. Enfin.
Et toi-même, tu sais.
Bah moi, je suis chômeuse aujourd'hui. Je suis une branleuse.
Mais réellement, est-ce que c'est tenable comme discours au-delà d'un, voilà, de ce micmac de chiffres Ça se voit, gros comme une maison.
Bah évidemment. Évidemment que c'est évident que c'est pas en faisant des économies sur l'indemnisation des chômeurs qu'on va remonter l'économie de la France. Faut arrêter de dire des conneries, quoi. Et ils veulent faire quand même 2,3 milliards d'économies.
Et est-ce que cette, on va dire, la consommation de ces chômeurs baissant ne risque pas de faire perdre finalement plus que...
Je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais je pense qu'effectivement, un chômeur qui survit avec 600 euros par mois, il va pas s'amuser à consommer, quoi. Hein, une fois qu'il aura payé son loyer et qu'il aura mangé, s'il arrive à manger jusqu'à la fin du mois, il aura de la chance, quoi.
Vous n'hésitez pas, si vous voulez interpeller.
Est-ce que, Françoise, tu pourrais resituer l'histoire et le modèle de l'assurance chômage en France pour
oui.
En redonner les grandes lignes et aussi peut-être après nous situer les évolutions que pose la réforme.
En fait, la couverture sociale a commencé à exister dans notre pays dès la fin du 19e siècle avec les caisses de mutuelles. Mais c'est vraiment le Conseil national de la résistance au sortir de la guerre de 39-45 qui a mis en place une protection sociale universelle digne de ce nom. Et il n'y a pas eu d'assurance chômage incluse dedans parce qu'à l'époque, ces caisses étaient gérées par les syndicats. La CGT étant majoritaire, les autres syndicats se sont opposés à ce que ça soit la CGT qui gère la caisse du chômage. C'est pour ça qu'en 1945, il n'y a pas eu de protection contre le chômage, alors que la plupart des pays européens en avaient déjà instauré. Il a fallu attendre l'arrivée du paritarisme dans la sécurité sociale en 1958 pour qu'on crée l'assurance chômage. D'ailleurs, c'est la création de l'assurance chômage qui a amené le paritarisme dans la sécurité sociale, qui a fait rentrer les patrons dans nos caisses, alors que c'était nos caisses, c'était à nous de les gérer. Et ça, c'est certains syndicats qui ont laissé passer ce genre de choses qui ont ouvert la porte au patron, quoi.
Et, au syndicat de patrons, du coup.
Oui, au syndicat de patrons, MEDEF, CGPME, enfin bon, bref. Et du coup, donc, on a, en 1958, on a créé la CEDIC, enfin l'UNEDIC pour collecter les fonds, la CEDIC pour payer les chômeurs. Et on a commencé à payer les chômeurs, mais sur un régime, je dirais, de, assurantiel. C'est-à-dire, je m'assure contre un besoin. Eh ben, si cet événement survient, je suis indemnisée. Et c'est comme ça qu'en 79, il suffisait d'avoir travaillé 3 mois pour être indemnisée un an. Et que petit à petit, au fil des années, le modèle a évolué.
Est-ce que c'était bien, pardon, de travailler 3 mois et de toucher pendant un an ?
Ben, c'est-à-dire qu'on était sur un modèle où on s'assure, en fait, contre un risque. Et ce risque survenant, ben, on est assuré, quoi. Alors que maintenant, tel que ça a été transformé, on est plus sur un compte épargne. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la solidarité, puisque l'assurance repose sur la solidarité. Tout le monde cotise et ceux qui se retrouvent confrontés au risque sont indemnisés, mais tout le monde n'est pas indemnisé. Alors que maintenant, on se retrouve avec un système qui dit bon, ben, un jour travaillé égale un jour indemnisé. C'est un peu comme si on avait un compte épargne chômage, quoi.
Et tout ça individualisé. Chaque personne cumule.
Exactement. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, si tu as travaillé 4 mois, tu peux être indemnisé. Avec la nouvelle réforme, ça sera 6 minimum. Et tu es indemnisé le nombre de jours que tu as travaillé. Donc, on a complètement changé de paradigme, en fait. On n'est plus sur un système assurantiel, mais sur un système de compte épargne-temps. Enfin, compte épargne-chômage, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais en gros, c'est... Voilà, je travaille un jour, comme ça je pourrais être indemnisée un jour. Et on a individualisé le truc. On a perdu la solidarité au passage.
Ça ressemble étrangement au statut des intermittents, du coup, actuel.
Tout à fait.
Tu travailles un certain nombre d'heures, tu es remboursé un certain nombre d'heures. Mmh. Tu es payé, indemnisé un certain nombre d'heures.
Tout est basé là-dessus maintenant.
Alors les intermittents voulaient faire évoluer leur statut, mais en fait c'est les chômeurs qui vont évoluer en intermittent. Je raccourcis peut-être.
Je dirais que c'est même pire que ça, parce que les intermittents, ils ont quand même un statut assez protecteur, qui fait que quand ils ont travaillé 507 heures, ils ont des droits ouverts sur une année. Les chômeurs, c'est tu travailles 6 mois, tu es indemnisé 6 mois, pas plus. C'est beaucoup moins protecteur. Et à la limite, puisqu'on en arrive là, pourquoi ne pas étendre le statut des intermittents à tous les chômeurs ? Puisque tout le monde devient un intermittent de l'emploi. Hein. Maintenant, les gens qui ont un CDI et puis qui peuvent passer d'un CDI à un autre CDI, c'est de plus en plus rare, quoi. La plupart des gens... moi, dans le temps que j'ai bossé à Pôle emploi, le nombre de personnes que j'ai vues arriver à presque à la retraite, et quand tu regardais leur parcours, ils n'avaient jamais eu un CDI de leur vie. Des gens qui ont la soixantaine, quoi. C'est hallucinant. Et donc, c'est bien des gens qui sont précaires, c'est bien des gens qui sont intermittents. Qui se baladaient d'industrie en agriculture, là où on avait besoin de bras, et puis qui faisaient les boulots dont personne ne voulait, quoi. Et c'est ces gens-là qu'on va mettre le plus à contribution avec la nouvelle mouture de l'assurance chômage. Puisque cette réforme va pénaliser plus les gens qui alternent comme ça des petits boulots, 2 semaines d'intérim, 3 jours, un CDD, que ceux qui ont une grosse période d'emploi et puis qui se retrouvent au chômage après.
Cette question des contrats très courts, en plus, c'est quelque chose qui se généralise de plus en plus. Justement, en tant que conseillère Pôle emploi, est-ce que tu as vu comme ça, progressivement, les entreprises ne plus jamais proposer de CDI ?
Moi, je ne l'ai pas vu progressivement, parce que comme je suis rentrée à Pôle emploi au début des années 2000...
C'était déjà le cas.
Voilà, on était déjà dans « je commence par embaucher le gars en mission intérim, s'il me donne satisfaction, je le prends en CDD, et puis s'il me donne satisfaction, je l'embauche. » En clair, s'il est bien docile.
Est-ce que tu peux du coup nous dire aussi quand est-ce que la réforme de l'assurance chômage va entrer en application et comment elle a été mise en place ?
Alors, elle va rentrer en application normalement le 1er juillet. À nous de nous battre pour qu'elle ne rentre pas en application.
Donc ça veut dire que le parcours législatif a été fait déjà ?
Oui, ouais. Le décret a été signé là il y a quelques jours. Je ne sais plus, c'était en début de semaine. Enfin, c'est récent. Hein. Et après, ce qui va se passer, c'est que les gens, aujourd'hui, pour s'ouvrir des droits, on regarde, Pôle emploi regarde sur les 28 derniers mois quelle a été l'activité de la personne. Sur ces 28 derniers mois, elle prend tous les jours travaillés et ça correspondra à des jours qui seront indemnisés s'il y a au moins 4 mois.
Déjà là, j'ai perdu.
Ben, en fait, c'est-à-dire que tu viens t'inscrire aujourd'hui, on va regarder dans les 28 mois, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois qui ont précédé la date à laquelle tu viens t'inscrire, combien de temps tu as travaillé. Si tu as travaillé non-stop, bon, bah, c'est facile à calculer. Par contre, si tu as eu des petits bouts de contrat sur ces 28 mois et que tu n'as jamais pu t'ouvrir de droits, on va regarder si mis bout à bout, ça fait au moins 4 mois. Si ça fait 4 mois, on t'ouvrira des droits pour 4 mois. Si ça fait plus, on t'ouvrira des droits pour plus. Avec un plafond à 2 ans pour la plupart des gens et qui peut aller jusqu'à 3 ans si tu as plus que 57 ans. Ou 55 ans, plus de 55 ans.
Donc, elle rentre en application au mois de juillet. Et ta deuxième question, c'était ?
C'était plus justement par rapport au processus législatif, si on peut dire, qui a vu arriver cette réforme, en fait, comment ça s'est passé ?
Au départ, elle devait rentrer en vigueur au 1er avril 2020. Et l'arrivée du Covid et puis le confinement l'a fait repousser une première fois au 1er juillet. Puis une deuxième fois au 1er octobre. Après, c'était 1er janvier. Là, maintenant, on en est au 1er juillet. Enfin bon, elle recule, mais en attendant, elle va finir par arriver. Elle a été aussi retoquée par le Conseil constitutionnel. Je crois que c'était en octobre ou novembre, je ne sais plus. Enfin, c'était à l'automne. Parce que tel que l'avaient pensé les législateurs, des gens pouvaient perdre 75% de leur indemnisation mensuelle. Alors, l'argument de nos politiciens, c'était oui, mais ils gagnent plus en droits, ils auront des droits plus longtemps. Certes, mais entre avoir 900 euros par mois pendant 6 mois et avoir 250 euros par mois pendant 2 ans, je pense que n'importe qui choisit la première option. Parce que ça fait peut-être plus de droits en valeur absolue, mais en attendant, quand il faut manger au quotidien, avec 900 euros, on a une chance d'y arriver, avec 250, c'est impensable. Du coup, cette réforme qui a quand même été bien remaniée, aujourd'hui, elle revient pour le 1er juillet avec un mode de calcul pour lequel les agents de Pôle emploi actuellement ne sont pas encore formés. C'est-à-dire qu'ils envisagent de les former au mois de juillet pour une entrée en vigueur au 1er juillet. Comment vont se calculer les droits des gens si les agents ne sont pas formés ?
Toi, tu sais comment ça va être calculé là ?
Non. Non, mais même... moi, je ne m'occupais pas de l'indemnisation. Moi, je m'occupais de l'accompagnement des chômeurs. Mais même mes collègues de l'indemnisation qui sont encore en poste ne le savent pas. Pour l'instant, personne ne sait comment ça va se calculer. Alors, les bruits qui courent, c'est que ça serait le même mode de calcul que celui qui a été retoqué, mais avec un plancher à 44%. Qui fait que personne ne pourrait gagner moins de 44% de ce qu'il aurait eu avant la réforme. Mais bon, ça aussi, ça reste pour l'instant soumis à caution. On ne sait pas exactement ce qu'il en est.
Alors, reprenons le principe que les chômeurs sont des branleurs, considérés par un certain nombre de nos politiciens. Est-ce que l'objectif, c'est de pousser les gens, puisqu'ils n'ont que 200 euros par mois, à aller bosser ? Et est-ce qu'il y a du boulot ?
L'objectif, de toute façon, de nos politiciens, c'est de mettre au boulot tous ces feignants. Ça fait des années qu'on le serine, c'est pas nouveau. Après, quel boulot ? Voilà. Parce que on a vu la chute drastique des offres sur le site de Pôle emploi. On a vu aussi les offres complètement bidons où les chômeurs, qui sont déjà quand même des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, se faisaient arnaquer par des gens sans scrupules qui leur demandaient leur RIB et puis ils leur piquaient leur pognon. Sans que Pôle emploi... nous, on n'y est pour rien. C'est des gens qui ont posé une offre sur notre site. Alors, ils essayent maintenant de faire un peu la chasse, mais il y a encore plein d'offres comme ça qui sont complètement bidons. Donc ça, c'est aussi une manière de culpabiliser les chômeurs, de leur dire, si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec vos 250 balles ou 500 balles, allez travailler. Oui, mais quel travail ? Et c'est les rendre encore plus vulnérables à ce type d'arnaque. Du coup, la solution, bah, c'est de se battre tous pour la faire échouer, cette réforme.
Élodie, Lucie, comment vous avez eu envie d'inviter Françoise? Comment vous l'avez trouvée?
Eh bien, moi, je ne sais pas du tout comment le contact a été effectué au départ. Qui t'a contacté, Françoise?
En fait, je suis venue au cinéma. Ah, voilà. J'ai vu qu'il y avait des différentes propositions d'ateliers, dont un atelier sur l'assurance chômage, avec plein de gens en face qui voulaient des infos et il n'y avait personne pour en donner. Donc, je me suis dit, je n'ai pas toutes les infos, mais ce que je peux donner, je le donnerai volontiers. Voilà, c'est comme ça que je suis venue.
Et après, du coup, c'était effectivement important qu'il y ait ce temps de présentation parce que ça permettait à la fois d'aborder certains sujets qui portent sur l'intermittence du spectacle, mais de manière plus étendue, de comprendre que cette réforme, en fait, elle touche tous les travailleurs, comme on le disait tout à l'heure, tous les travailleurs intermittents.
Et il y a un effet très pervers, même pour les gens qui ont été en poste pendant 10 ans, 30 ans, et qui se retrouvent au chômage aujourd'hui, c'est qu'avant, il y avait ce qu'on appelait le dernier jour travaillé payé, qui faisait que si une personne était licenciée après 2 ans d'absence pour arrêt maladie, Pôle emploi remontait à son dernier jour travaillé et aux 12 salaires précédents ce dernier jour travaillé pour calculer son droit. Aujourd'hui, on prend la date à laquelle, enfin aujourd'hui, avec cette réforme qui arrive, on va prendre la date à laquelle il s'inscrit. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est déjà le cas, on prend la date à laquelle il s'inscrit. Si la personne a eu un arrêt maladie,
Qu'elle pense à s'inscrire avant son arrêt maladie.
Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'inscrire. Tu ne peux pas t'inscrire tant que tu as un boulot. Il faut attendre d'être au chômage, que ton contrat soit fini. Mais si elle a eu un arrêt maladie et qu'elle a été licenciée pendant cet arrêt maladie, son salaire qui est amputé, puisque toutes les boîtes ne complètent pas, là, ça sera pris en compte aussi cette période-là pour calculer ses droits.
Double peine.
Mais ce que Pôle emploi ne dit pas, c'est que la personne, elle a le droit de réclamer et de dire « Mais attendez, là, j'étais en arrêt maladie, il faut me rétablir mes droits. » Ce qui fait que comme personne ne le sait, personne ne réclame. Et à titre personnel, avant d'être licencié de Pôle emploi, j'ai passé 7 mois en temps partiel thérapeutique à 40%. Donc j'avais 40% de mon salaire, le reste c'est la sécu qui me payait. Quand j'ai reçu ma notification de droit, il me manquait 200 euros sur la simulation que j'avais, par rapport à la simulation que j'avais faite sur le site. Du coup, j'ai dû réclamer pour avoir mon droit complet. Mais moi, j'avais l'info. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que cette info soit diffusée partout. Que quand on a eu un arrêt maladie avant d'être licencié, quelle que soit la durée du contrat qu'on avait, il faut impérativement réclamer pour faire recalculer ses droits. Parce que sinon, on n'aura pas son droit complet. Et personne ne nous le dira.
Quand même, hein. Côté assez récurrent.
Oui.
Et alors, tu nous as parlé de nous battre tous ensemble. J'avais envie de demander, est-ce que à cette première rencontre, réunion que tu as proposée autour de ce sujet au cinéma, par exemple, est-ce que c'était plutôt des chômeurs, plutôt des intermittents ou plutôt des gens qui, pour l'instant, sont en emploi et qui pourraient aussi faire partie de cette lutte? Parce que ce soit que les chômeurs qui se battent, ça me paraît un peu...
J'avoue que je sais pas trop quel était le statut des gens qui sont venus, on leur a rien demandé.
Non, ouais.
Mais je pense qu'il devait y avoir aussi bien des gens en emploi que des chômeurs et des intermittents. Hein. Enfin, je sais pas.
Ouais, je pense que c'était assez panaché. Ouais. Et je me disais aussi par rapport au fait de nous être dit, on va demander à RDIWA si on peut justement t'interviewer. C'est que parce que avec cette histoire de Covid qui sature complètement l'espace médiatique. Du coup, effectivement, l'accès à l'information sur les enjeux de cette réforme qui va vraiment, du coup, complètement mettre à sac le système de pot commun de l'assurance chômage. En fait, je pense qu'on, du coup, on n'est pas conscient de l'état de dégradation que ça va générer dans le rapport au travail, au salariat, à l'intermittence du travail. Et du coup, pour nous, c'était important. Donc, un groupe de travail s'est créé au sein de l'occupation pour justement avancer sur la question de la réforme de l'assurance chômage. Et une des premières choses qu'on s'est dit, c'est important de pouvoir donner de l'information parce qu'effectivement, avec tout ce qui se passe en ce moment, je crois qu'on est tous un peu, tous et toutes un peu à côté de la plaque. On ne mesure pas en fait l'enjeu énorme de cette réforme.
Et puis on a eu le temps d'oublier la lutte qu'il y avait contre, puisque c'était déjà il y a un an en fait.
Ouais, bien sûr, ouais, voilà.
Plus personne manifeste.
Et puis surtout que cette réforme, elle passait un peu au second plan à l'époque, parce qu'il y avait la réforme des retraites,
oui,
qui était vraiment beaucoup plus médiatisée, et parce que tout le monde sait qu'il sera retraité un jour, alors que les chômeurs...
Tout le monde malgré souhaite tout, ne jamais l'être.
Voilà, et puis malgré tout, les dirigeants successifs ont bien su faire rentrer dans nos cervelles qu'un chômeur, c'est un feignant, quoi. Et du coup, on mobilisait vachement moins sur la retraite de l'assurance chômage que sur les retraites.
Qu'est-ce que vous faites dans votre groupe de travail, du coup ?
Mais on s'est réunis une première fois hier. Nous étions quatre. Et du coup, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de moyens d'informer les habitantes et les habitants de la vallée sur les enjeux de cette réforme. Du coup, on est venu ici aujourd'hui. On prévoit de rédiger un tract d'information et de publier des affiches. On va aussi faire un point d'information sur place dans le hall du cinéma. Voilà.
Et on va diffuser
des projections, des vidéos. Oui. Pourquoi veut-on en finir avec les chômeurs, de Samuel Churin, je pense qu'il s'appelle. C'est prévu jeudi prochain à 14h, c'est
ça ? Oui, c'est ça.
Au cinéma. Bon, pas en grand écran, mais
oui, non.
en mode
vidéo proche, quoi.
C'est bizarre d'ailleurs, c'est faire du vidéo
proche
dans
un cinéma. C'est le paradoxe, mais...
Oui, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Mais justement, on y réfléchit en commission, parce qu'il faut arriver à mobiliser les gens, et
on est bien empêchés, mon bon monsieur.
Certes.
Surtout à l'heure où on est invité à rester chacun chez soi, surtout sans fréquenter son voisin.
Mais vers quel type de mouvement vous... pourriez souhaiter que ça aille ? Est-ce qu'il faut qu'on refasse de la manifestation de masse ? Est-ce qu'il faut...
Moi, j'avais envisagé, avant qu'on nous reconfine à nouveau, d'aller déjà tracter devant le Pôle emploi de Cray. Déjà, une première chose pour essayer de mobiliser les chômeurs, pour voir comment on pouvait faire prendre cette mobilisation, puis avant d'envisager, pourquoi pas, après, des manifestations de masse. Parce que de toute façon, face à ce gouvernement qui est complètement autiste, si on n'est pas des millions dans la rue, ça passera à rien.
Mais quand on était des millions dans la rue, c'est pas passé grand-chose.
On n'était pas des millions, on est arrivé peut-être à un million, mais on n'est jamais allé bien plus loin. Il faudrait vraiment être beaucoup plus nombreux, surtout face à... mais je sais pas si t'as vu, lui, on lui montre un mur, il fonce dedans, tant qu'il n'est pas dedans, il continuera, quoi. Et même quand il sera dedans, il est capable de piétiner en continuant. Hein. Donc là, on est vraiment obligé d'être très puissant. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les manifs, elles réunissent pas assez de gens, quoi.
Et les chômeurs eux-mêmes ont parlé de cet isolement, de la honte d'être chômeur, puisqu'on l'a martelé. Ont un peu du mal à se grouper. Justement.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à fédérer aussi l'ensemble de la population. Parce qu'un chômeur, ça peut être ton fils, ton père, ta mère, ton oncle, enfin peu importe quoi. C'est n'importe qui, un chômeur. Ça arrive à tout le monde, y compris à des cadres sup qui n'auraient jamais imaginé ça. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire rentrer. Et c'est là la difficulté. Et c'est là que nous, on est en train d'essayer de mettre en place des outils. C'est quelque chose qu'il faut faire rentrer dans la tête des gens. Ils ont été formatés par des décennies de lavage de cerveau par rapport à la situation des chômeurs. C'est à nous d'essayer de trouver le moyen de contrer ce lavage de cerveau et d'arriver à leur faire comprendre qu'un chômeur, c'est une personne digne qui a les mêmes droits que tout le monde.
Et qui ne voulait pas être au chômage en plus.
Voilà.
Mais il n'y a pas de boulot.
Ben, c'est ça le truc.
Et les cadres sup, quand ils ont voté Macron et qu'ils sont au chômage, il se passe quoi dans leur tête ?
Alors là, je ne suis pas là dans leur tête. Hein. Pour en avoir reçu, ils ne se sentent pas du tout pareil que les autres chômeurs.
Ah, tu peux expliquer ?
Ben, ils peuvent être très méprisants vis-à-vis du personnel qui les reçoit, parce que c'est du petit personnel. Mais surtout, ils expliquent que eux... ben, c'est juste entre deux postes, quoi. C'est pas... Et puis parfois, on les retrouve 3 ans après à la SS avec 500 balles par mois, mais ils ont toujours la même morgue. Alors, c'est pas tous comme ça, mais j'en ai connu.
Tu prends pas de risque à nous dire tout ça aujourd'hui ?
Pourquoi ?
Il n'y a pas de droit de réserve sur Pôle emploi ?
Bah, j'y suis plus.
Bah, ouais, un droit de réserve, c'est, ça peut des fois courir derrière un moment.
Moi, je vois pas ce que je dis de compromettant, de non.
Est-ce que c'est bien reçu par tes collègues, le fait de défendre ça ?
Non. Déjà, simplement défendre les chômeurs, la plupart des collègues le prennent très mal. Parce que Pôle emploi est une institution maltraitante, qui maltraite ses salariés. Et du coup, par ricochet, les salariés maltraitent les usagers. Alors, tous ne sont pas comme ça. La plupart essayent de faire leur boulot avec beaucoup de cœur, sauf qu'ils se trompent d'objectif. Parce que, pour moi, l'objectif de Pôle emploi, ça a toujours été de s'occuper des gens. Et aujourd'hui, c'est des indicateurs. Alors, des indicateurs de, de satisfaction, de nombre d'offres pourvues, de nombre de chômeurs qui ont retrouvé du boulot, enfin bon, des choses comme ça. Mais absolument pas de la qualité du travail. C'est-à-dire que les gens, ils auront l'impression de faire très bien leur travail parce qu'ils remplissent les indicateurs. Ils ont mis plein de chômeurs au boulot. Après, est-ce que ce chômeur-là avait envie de faire ce boulot-là ? Ce n'est pas leur problème. Il est au boulot. Et c'est là où je pense qu'on a perdu l'esprit qui était à la base pour la NPE. C'était d'aider chaque chômeur à réaliser son projet ou à trouver le boulot qui lui convenait. Aujourd'hui, c'est mettre chaque chômeur au boulot. Peu importe.
On a plus le temps d'ailleurs de prendre le temps de rédiger un projet à quelqu'un, quoi, en fait. Vous devez aller plus vite, faut vite les mettre au boulot.
Moi, je l'ai toujours pris.
Ouais.
Après, c'est vrai que j'étais toujours un peu borderline, mais je l'ai toujours pris. Je l'ai toujours défendu les droits de mes gens à avoir des formations, les gens que j'accompagnais, qu'ils aient des formations, qu'ils puissent tenter un concours, qu'ils aient un accompagnement pour tenter ce concours. Enfin, quel que soit leur projet, leur donner le moyen de le réaliser. Et c'est vrai que c'était une bagarre au quotidien contre mes chefs et parfois même contre mes collègues. Quoi.
Collègues qui ne sont donc pas prêts de changer. Si l'institution est pourrie de l'intérieur, est-ce qu'on a une chance que cette réforme saute en dehors de la lutte qui pourrait
Néanmoins, la plupart des agents qui bossent à Pôle emploi sont conscients que cette réforme, c'est quand même une réforme dangereuse. Parce que précipiter 1 million de personnes dans la pauvreté, ça ne se fait pas sans risque. Et après la mort d'une collègue à Valence, ils sont tous conscients qu'ils sont tous des cibles. Et ça, ça les fait quand même un peu réfléchir.
Il a fallu ça.
Ils en étaient conscients avant, parce que le nombre de fois où j'ai vu des collègues ouvrir l'agence, la peur au ventre, c'est une réalité aussi. Moi, je sais que je trouve que certains collègues ont l'impression qu'ils sont des patrons de start-up. Je trouve ça ridicule. Il y en a d'autres qui essayent de faire leur boulot vraiment de leur mieux. Et puis, tu as aussi la masse de tous ceux qui viennent pour faire leur boulot, qu'ils font. Si on leur dit, tu reçois 2 vagues de 50 personnes, une à 8h30, une à 10h, et puis l'après-midi, tu saisis ça entretien, ils font. Ils se posent pas de questions. Ils se fichent de la performance, de l'atteinte des indicateurs, mais ils se fichent aussi des gens. Et ça, je pense que c'est l'immense majorité. Ils font leur boulot.
Ça ou une boucherie industrielle.
Voilà. Et c'est dommage.
Moi, du coup, je voulais peut-être revenir sur par rapport à la question que tu posais sur qu'est-ce qu'on peut faire. Effectivement, là, il y a une grosse urgence et vu l'état des troupes, si je puis dire, ça paraît un peu fou d'imaginer pouvoir faire basculer cette réforme. Néanmoins, je pense que, et je pense que c'est pour ça qu'on est là toutes les trois. Et qu'on participe à l'occupation du théâtre et du cinéma, en fait, il est essentiel de se réapproprier tous et toutes dans nos vies l'action collective, et que ça commence comme on le fait, par exemple, tous les quatre dans ce groupe de travail, on ne se connaissait pas il y a 5 jours, et puis on s'empare d'un sujet, on essaie de s'informer nous-mêmes et puis on se dit que cette information, il est essentiel qu'elle soit partagée. Alors on cherche à comment la partager et puis on se pose la question des moyens d'action. Alors Françoise nous dit, ah bah, je connais un collectif lyonnais qui s'appelle Poison d'Avril, c'est ça ? Voilà, donc on se dit, bon, bah, peut-être on peut les contacter pour voir comment eux, ils fonctionnent.
Poison d'avril en référence à la date à laquelle devait sortir la précédente réforme, le 1er avril l'année dernière.
Voilà, et que tout ça, en fait, ça fait qu'on se met ensemble, on agit en réfléchissant, en essayant de s'informer les uns les autres. Et c'est déjà, pour moi, un premier pas vers le fait de pouvoir se remettre... À agir à une échelle plus importante. Et là, je parle au-delà même de la réforme de l'assurance chômage. Hein, je pense que c'est vraiment primordial dans la période qu'on traverse de se reconnecter aux autres et de se dire qu'il faut rien lâcher, en fait.
On a atteint les 10 millions de pauvres, je crois, et tu parlais d'en rajouter un autre million. Est-ce que ça ne va pas être... créer des nouveaux problèmes, vraiment, surtout dans cette période dite de crise.
À mon avis, ils sont déjà comptabilisés dans les 10 millions. Parce que quand tu gagnes 900 euros par mois, je ne pense pas que tu sois riche.
Oui, mais je veux dire, par rapport à la santé, par exemple, par rapport à l'alimentation, au bien-vivre de ces personnes-là, si 10 millions de personnes plongent, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'ensemble de la nation, j'allais dire ?
Ça, je ne suis pas sûre qu'il soit lié à la convention d'assurance chômage, mais de toute façon, une nation riche comme la France qui a 10 millions de pauvres, c'est inadmissible.
Mais inadmissible sur le plan moral.
Bah, sur le plan moral et même sur le plan économique. Un pays riche comme la France, qui est là, je ne sais plus, 6e, 8e puissance économique au monde, je ne sais plus rien, je ne sais même pas où elle est, c'est pas entendable. Qui est 10 millions, c'est-à-dire en gros un Français sur 10, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça, je ne comprends pas d'ailleurs que les gens ne réagissent pas plus. Peut-être parce qu'ils ont peur, eux aussi, de basculer. Parce que moi, c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, les gens ne réagissent pas. Ils sont tous liés par le crédit de la maison, celui de la voiture, le crédit à la consommation acheté pour partir en vacances ou pour acheter les jouets de Noël. Enfin, j'en sais rien. Et du coup, ils ont leurs échéances à rembourser. Et du coup, ils ont trop peur de perdre leur job et de basculer pour rejoindre une quelconque lutte.
Et vous êtes senti seul, là, dans l'occupation ? Ou au contraire, bien... c'est bien fourni ? Je sors un peu de cette réforme.
Bah, il me semble que, alors bon, moi, je vais parler pour moi, mais en tout cas moi, ce que je vis dans cette occupation, c'est vraiment la possibilité, grâce au fait qu'on est dans un lieu où on est bien accueilli, en fait, voilà, donc il n'y a pas du tout pour l'instant de pression d'être évacué. C'est une occupation, en fait, on a le temps et l'espace. De poser des choses ensemble et donc effectivement de se relier à d'autres, à des personnes qu'on ne connaît pas, par les temps qui courent aussi. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce qu'en fait, je croise tous les jours des gens que je n'avais pas prévu de rencontrer.
C'est une occasion de faire des nouvelles rencontres.
Voilà. Finalement. C'est super bien. Et qu'effectivement, on se relie par de la réflexion, mais pas que. En fait, on se relie aussi dans des moments de vie quotidienne. On prépare des repas ensemble, on les partage et on essaie de poser des actes, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, je sais que pour ma part, c'est vraiment c'est une grande, grande, grande bouffée d'air et de respiration, en fait.
Tu veux partager, Élodie ?
Oui, bah, je rejoins complètement ce que dit Lucie. Je trouve que ça fait du bien de pouvoir recommencer à parler, à réfléchir, à réouvrir la pensée sur plein de sujets qui sûrement tiennent à cœur à plein de gens, mais où tu t'es retrouvé quand même seul pendant... Enfin, seul, relativement seul, mais en tout cas, de confronter des idées, de savoir aussi qu'on n'est pas tous d'accord, parce que c'est très fluctuant le nombre de gens qui peuvent participer aux assemblées générales et tout ça, mais on n'est pas d'office d'accord et je trouve ça aussi intéressant que dans un mouvement d'occupation, il y ait questions, réponses, débats et que c'est ça qui est riche et que d'office on ne va pas être tous d'accord, mais que c'est comment trouver essayer de faire de la politique, mais à un niveau très minuscule. Et on se rend compte de la difficulté aussi que c'est de pouvoir avancer par groupes qui ne sont pas forcément 100% sur la même longueur d'onde, mais qui, par leurs actes et par leurs actions, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la rue ou plus sur des écrits, bah, que ça fait en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en branle et qui a recommencé à vibrer, je dirais, d'une certaine façon. Mais ça, pour moi, c'est super riche, surtout que je viens d'arriver dans le coin. Donc, je vois plein de têtes, je me dis, mais c'est super foisonnant. Enfin, super, il y a beaucoup de diversité aussi. Et ça manque encore, par contre, j'ai l'impression. Il y a pas mal d'acteurs du culturel, il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir avec la culture. Mais ce que je pense que souhaitent pas mal de gens, c'est aussi que ça puisse amener des gens qui n'ont rien à voir avec des mouvements militants, rien à voir. Et que pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas pu y aller tous les jours, mais j'ai l'impression que ça fait encore peut-être peur, que pas tout le monde, en tout cas que toi, t'es passé la porte, Françoise, en disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais, moi, amener à ce mouvement. Je trouve ça super intéressant et j'encourage tout le monde là, qui nous écoute à passer la porte du Pestel. C'est... Bon, ce sera...
Le lieu est ouvert à toutes et tous. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et effectivement, la question de la diversité... des horizons et des points de vue est vraiment au cœur de ce mouvement.
Et puis, c'est l'occasion de dormir dans un cinéma, ce qui est quand même jamais possible, normalement.
Bah, parfois, on s'ennuie pendant les projections. quand
on n'est pas aussi bien allongé, quoi. Et, il nous reste assez peu de temps. Est-ce qu'on a oublié quelque chose que vous voudriez dire qu'on n'a pas...
Ben moi, j'ai une question, Françoise. Tu avais parlé de ce qu'à terme, Macron, son envie, c'était d'amener tout le monde vers un espèce de revenu universel bien...
Tout à fait.
Tu as parlé de ça et moi, j'aurais bien aimé que tu réexpliques un petit peu ça.
Ben, en fait, le revenu universel, c'était un peu le thème de beaucoup de candidats à la présidentielle de 2017. Et donc, Macron s'en était emparé aussi, hein, puisque ça faisait bien dans le décor. Et à la sauce Macron, eh ben, ça donnerait un truc qui est en gros 800 euros pour tout le monde, mais plus de sécu, quoi. Et il n'en est pas encore là, heureusement. Mais cette réforme de l'assurance chômage est une bascule quand même. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire que l'indemnisation moyenne, elle est à 980 euros. Avec cette réforme, elle va dégringoler. Elle va passer peut-être à 600 euros, hein, en gros. Donc, on sera en dessous de ces 800 euros. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour Macron d'amener maintenant son revenu unique d'activité, son RUA, puisque ces gens-là, qui toucheront parfois en dessous du RSA, ils auront droit au RSA, ils auront droit aux allocations familiales. Du coup, on fait tout en une seule aide. On verse environ 800 euros par personne. Hein. La sécurité sociale, pour l'instant, elle est encore épargnée, mais pour combien de temps ? Hein, y a déjà les plafonds là, pour les lunettes et puis pour les dents. Donc ça, c'est la sécu pour les pauvres. Ceux qui peuvent se payer des dents ou d'autres lunettes, ils ont le droit de payer plus cher. Hein, mais pour nous, ça sera comme ça. Donc, il y aura bientôt aussi la médecine pour les pauvres et la médecine pour les riches. Ils ont commencé avec les dents et les lunettes, ils ne vont pas s'arrêter. Hein, bientôt, ben, si on veut avoir un bon médecin, il faudra le payer plus cher. Ça ne sera pas remboursé par la Sécu. Et ben, nous, on se contentera des médecins qu'on a, qui sont ce qu'ils sont, bons, mauvais, enfin peu importe. Hein, moi, je ne vais pas de jugement apporter. Mais les médecins qui sont réputés, on ne pourra pas, nous, se les offrir. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a sa mutuelle. Et avec ce système-là, on rejoindrait un peu le système anglo-saxon des job centers, où les gens ont une indemnisation forfaitaire. Et par contre, ceux qui ont les moyens cotisent à une mutuelle chômage.
Et puis, comme ce revenu d'activité universel fait finalement un tout petit peu augmenter le revenu qu'on a là maintenant, eh ben les gens vont dire « Ah oui, super,
ah oui.
Votons Macron
ben !» C'est ça. Alors qu'en fait, ils y perdent. Parce qu'on va fusionner toutes leurs aides en une seule. Et là où ils avaient plusieurs aides qui leur faisaient un certain montant, eh ben ils auront peut-être moins avec ces 800 euros. Et ça, c'est le même principe que quand ils ont supprimé les cotisations d'assurance chômage. Hein, regardez, je vous offre du pouvoir d'achat. Oui, aujourd'hui.
Donc on gagnait 50 balles.
Mais
on
contre... a 50 ouais. balles, même pas. Ouais, enfin, même bon, pas. Bref, 12 balles ou je sais pas, enfin, tu vois. Mais en attendant, la fraction de cotisation que notre employeur versait pour nous, bah, celle-ci, on l'a perdue. Donc, on a perdu du salaire parce que notre salaire, c'est notre salaire net, mais c'est aussi notre salaire brut et ce qu'on appelle le super brut, c'est-à-dire notre brut plus les cotisations des patrons. Qui font qu'un jour, on a des indemnités d'arrêt maladie, des indemnités chômage et on a une retraite. Et tout ça, si on ne le paye plus, on ne l'aura plus. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils sont en train d'amener.
Et moi, je comprends toujours pas la logique parce que quand on aura plongé 3-4 Français sur 10 dans la pauvreté, ça va craquer. Enfin, c'est, à quelle logique ça répond?
Je comprends pas, moi. Moi non plus, je comprends pas parce que c'est effectivement, ça n'a pas de logique. Parce que, à part celle de toujours plus enrichir les rapaces, les riches qui sont déjà, qui savent pas quoi faire de leur fric, quoi, pour assurer leur puissance, en faisant de nous un vivier de main-d'œuvre où le patron peut piocher. J'ai besoin de telles compétences, je prends. Et puis moi, j'ai besoin de bosser, donc je vais faire ce que je sais faire, quoi, même si c'est pas mon métier.
Bah, du coup, ça aussi, ça pose hyper profondément ce que c'est que le travail.
Tout à fait.
Autre chose pour finir?
Bah oui, du coup, peut-être pour revenir sur ce qui nous, je pense, est une des grandes choses qui peut-être nous relie au sein de l'occupation, c'est peut-être aussi d'essayer d'imaginer et peut-être d'essayer de mettre aussi encore une fois en acte d'autres, enfin des nouvelles manières d'être solidaires en fait.
Vous avez des idées?
Ouais, je pense que ça émerge petit à petit. Déjà ça se vit en fait et ça c'est pas rien. Ça se vit sur place.
Mais est-ce que c'est plus facile à l'échelle de notre territoire que dans une grande ville, par exemple? De passer sur d'autres manières de s'échanger, de s'aider, de s'entraider?
Moi, j'ai l'impression que... et là, je ne me base pas du tout sur quelques études que ce soit, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que, en tout cas, que ce soit ville ou campagne, dans des petites échelles... des groupes à petites échelles, c'est plus peut-être quelque part plus facile à mettre en œuvre. Voilà. Donc oui. Il se trouve que effectivement là dans la vallée, on n'est pas très nombreux et du coup ça sans doute ça permet d'être peut-être plus solidaire et de travailler ça de manière plus directe. Ouais.
On peut terminer là-dessus. Face à toutes ces répressions en devenir, le peuple se soude plus encore. Et donc, ça va finir par faire quelque chose de bien.
Ouais, j'espère.
Merci Françoise pour cette présentation.
Je t'en prie.
Merci Lucie et Elodie pour votre accompagnement et vos questions.
Merci.
Bonne suite dans cette occupation.
Ouais, merci.
Tenez bon.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.